Tous, à chacun, toutes, à chacune, cet écho de ma commune vous est présenté par votre serviteur Christophe Jubien. Il a pour invité Jean-Pierre Gorge, député maire de Chartres. Quoique, pour être tout à fait honnête, c'est moi qui suis votre invité, monsieur le maire, puisque cet entretien se déroule dans votre bureau de la mairie de Chartres. Vous avez vu sur le chantier du pôle administratif, un chantier qui a débuté cet été. On en parlera dans quelques minutes, mais tout de suite, je voudrais vous parler d'une actualité brûlante qui concerne à la fois l'Europe, ses gouvernants et ses peuples. Je veux bien entendu parler de la question des migrants. Quel est votre sentiment sur cette affaire, votre sentiment, mais aussi votre opinion? Que doit-on faire et que ferez-vous en tant que maire de Chartres?
En tant que maire de Chartres, je verrai, c'est difficile. Non, mais déjà, sur cette situation, moi je pense que, et je l'écris régulièrement, eh bien je pense qu'on a une responsabilité sur cette situation. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Vous savez, je suis le seul parlementaire qui a voté contre les frappes en Irak. Et je pense que la politique étrangère de la France, depuis plusieurs mandats présidentiels, n'a pas été très bonne. Bon, je pense que Chirac avait une vue juste quand il s'est opposé à une intervention en Irak. Et depuis, je pense que les choses n'ont pas été très, très, très bien menées. Et je pense que c'est un retour des choses. Moi, c'est ma position. C'est pour ça que je suis contre les interventions. Je pense que la France ne peut plus être le gendarme du monde. C'est pas la France d'aller s'occuper de tout ça. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la France interviendrait simplement sur ce point du monde et qu'elle laisserait des choses se faire à d'autres endroits, sur d'autres continents. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ça, c'est une position vis-à-vis de la France. Et puis vis-à-vis de l'Europe, on comprend bien que tout ça, ce n'est pas encore une entité organisée, chacun des positions différentes, que ce soit sur les interventions, mais aussi sur ce qu'il faut faire par rapport à ces réfugiés. Alors, la situation des réfugiés, c'est vrai que c'est dramatique. Mais où est-ce que ça va s'arrêter? Vous vous rendez compte qu'on est déjà en difficulté, et là, on voit un afflux de gens qui pensent que chez nous, tout ça, ça va être un peu plus facile. Donc je pense qu'on se prépare des semaines, des années très très difficiles.
C'est-à-dire des années difficiles, vous pensez qu'il pourrait y avoir par exemple des troubles, des problèmes sociaux en France?
Ben, je pense que les gens, vous savez, il y a toujours ces côtés bobos, tous ces gens qui ont plein d'argent, qui sont prêts à soigner le monde entier, mais qui ne s'occupent pas de leur famille, de leurs voisins. Vous savez qu'en France, de temps en temps, il y a des personnes qui meurent. On s'en aperçoit 3 mois après que les gens étaient restés dans leur appartement. Ça nous arrive, hein, donc. Et tous ces gens qui voient le monde à travers la télévision, les informations, qui veulent s'occuper de tout le monde, je pense que ça, c'est assez limite. Moi, j'ai vu la signature de ces 66 artistes-là qui sont blindés, qui sont riches et qui veulent faire la morale à tout le monde. C'est pas acceptable, ça. C'est très difficile. Quand on est maire, on le sait bien. Moi, je suis aussi bailleur social. Je vis ça au quotidien. C'est pas simple, tout ça. Donc, ces grandes leçons de morale, c'est pas acceptable. Et moi, je pense qu'en plus, cette façon de faire fera le jeu du Front National. Vous voyez, je pense que les choses vont mal tourner.
Quoi qu'il en soit, il paraît difficile d'arrêter cet afflux de migrants, justement, dans le contexte de l'espace Schengen.
Eh bien oui, justement, c'est là la limite de notre construction européenne. On voit que Schengen, certes, ça apporte des avantages de libre circulation pour ceux qui sont là, dans la légalité totale, mais une fois que quelqu'un a pénétré dans l'espace, vous voyez bien que le système n'est pas protégé. Et aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'on doit continuer dans cet espace-là? Vous avez vu que ça va très très loin. C'est qu'en Angleterre, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on reste dans l'Europe, quoi? Vous vous rendez compte où on en arrive? Je pense qu'on se prépare des périodes très très difficiles.
Est-ce qu'on reste dans l'Europe, alors?
Bien sûr, moi je suis un Européen convaincu, mais moi ce que je déplore pour la France et pour l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de vision, quoi. Il n'y a pas de vision. Vous savez, c'est marrant parce que sur cette agglomération, en 2001, on s'était posé la question comment on tire le modèle pour se développer de façon organisée, réfléchie. Et en fait, la dimension qu'on avait prise à l'époque, c'est la démographie. Quelle démographie on veut ? Quelle démographie on veut ? Les Allemands ont un taux de natalité de 1,38, c'est-à-dire que l'Allemagne est en déclin. La France, 2,1, c'est-à-dire qu'on est encore, on maintient notre population. On n'est pas dans la même situation. En Allemagne, ils ont une croissance et ils n'arrivent pas à produire suffisamment tout ce qu'ils pourraient produire. Ils ont besoin de main-d'œuvre. En France, on a un chômage grandissant. Tous les mois, on nous annonce 30-40 000 chômeurs de plus. Vous voyez, depuis que M. Hollande est élu, c'est plus d'un million de chômeurs. Et on voudrait faire croire au monde entier qu'en France, ça peut être une terre d'accueil. Donc, moi, je pense que tout ça, ça a ses limites. Maintenant, il faut bien sûr être attentif. Il y a des problèmes dans le monde, mais la France, c'est 1% de la population mondiale. Les choses se sont inversées. Et je pense que la France ne peut pas être ni le gendarme du monde, ni le point d'accueil du monde. Donc il faut en tenir compte et réfléchir à notre position dans l'Europe, dans le monde. Et moi, je suis assez convaincu qu'il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont proches avant de vouloir soigner le monde entier.
Sur le plan tactique, on peut penser que si on ne gagne pas contre Daesh assez rapidement, les migrants vont continuer de venir chez nous, non ?
Oui, mais moi je vous rappelle un peu l'histoire, c'est quand on a voulu s'occuper de Bachar el-Assad qu'on a installé Daesh, d'accord ? Et Bachar el-Assad est toujours là, et on a créé Daesh. Tous ces pays sur lesquels on a voulu faire la chasse à ces dictateurs, ces tyrans qui, certes, avaient beaucoup de défauts, mais tenaient quand même les pays aujourd'hui. Regardez la Libye. Bon, on voudrait mettre tout ça par terre. Pourquoi faire ? Vous avez maintenant des populations là, qui sont errantes, nomades, ils se font la guerre entre eux. Et les gens ne s'y retrouvent pas. Vous savez, j'ai vu il y a quelque temps sur Internet une interview où M. Bourdin posait la question à un président de la République en lui demandant si Al-Qaïda était chiite ou sunnite. La personne n'a pas su répondre. Donc c'est inquiétant, vous voyez. Moi, je suis inquiet. Quoi. Et quand j'entends des choses comme ça, je suis très inquiet. Donc tout ça, ça commence à me faire peur. Et j'ai de moins en moins confiance en ces politiques qui changent de position. Vous la connaissez, la position de M. Hollande ?
Elle change. Justement, les dernières annonces de François Hollande, concernant justement la guerre contre Daesh, des survols un peu stratégiques, des...
Mais ça, c'est tout à fait hollandais, si je puis dire. C'est que faire du survol, il va envoyer peut-être des drones, il va regarder ce qui se passe et puis après, il va viser. Ça, c'est pour se donner du temps, parce qu'il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Récemment, on a eu à voter à l'Assemblée nationale, savoir si on continuait des frappes en Irak, justement. Ces frappes, qu'est-ce qu'elles ont donné aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a eu de fait ? Qu'est-ce que ça a donné ? Moi, je pense que ces frappes ont des conséquences sur ces populations qui se déplacent. Quand vous canardez comme ça, sans savoir exactement ce qui se passe, parce que les populations sont mêlées, eh bien, je pense que ça, c'est peut-être le retour des choses. En tout cas, moi, je vais poser une question au gouvernement, puisque je suis le seul à avoir voté contre ces frappes, et je vais poser la question au gouvernement pour qu'on me fasse un point. Qu'est-ce qui a été fait ? Quel résultat on a obtenu ? Et savoir surtout s'il y a un lien entre ces flux de migrants et nos actes. Vous voyez ? Ça m'intéresse. Mais je ne vais pas lâcher sur le sujet.
Après l'international, l'état du pays, alors toujours pas de croissance ni d'emploi. Bon, ce n'est pas pour vous surprendre, vous êtes très critique envers la politique du gouvernement. Même sous l'ère Valls, Macron, c'est un couple réputé droitier. Ce que vous leur contestez finalement, c'est une réputation que vous leur contestez.
Oui, non, mais attendez, c'est pas un couple droitier d'ailleurs. Si vous voulez, moi je fais une différence entre Macron.
Libéral, on va dire, alors.
Macron. Oui, peut-être libéral-social ou social-libéral. Monsieur Macron, oui. Monsieur Valls, non. Monsieur Valls est une girouette. Un jour, il veut satisfaire l'extrême-gauche. Un jour, c'est la droite du PS. De temps en temps, il braconne, il essaye d'aller chercher la gauche de la droite. Vous voyez, c'est un petit politicard. Moi, je vous le dis, je le vois, je le connais depuis longtemps, hein, puisque bon, je suis à l'Assemblée nationale depuis un certain temps. Je le connaissais, c'est un petit politicard. je pense que M. Macron, c'est différent, c'est pas un politique. Lui, il est plus proche de la société civile, il est convaincu d'un certain nombre de choses. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, on lui fait fermer. Quand il dit les 35 heures, c'est pas tout à fait ce qu'on a espéré. Il a raison. Moi, j'ai fait une commission d'enquête, j'ai participé à une commission d'enquête sur les 35 heures. On sait très bien que ça a pu créer des emplois dans les 2-3 premières années après la création, mais après, c'est destructeur. Donc, il le dit, c'est rembarré, ça met la pagaille, vous avez tout le monde lui saute dessus. Et Valls, il essaye d'éteindre le feu tout en restant bien avec Macron, mais en dehors des gages. Attendez, mais ça, c'est le café du commerce, ça, c'est de la politique de comptoir. Il s'agit de la France. C'est la France qu'ils ont entre les mains. Monsieur Valls, depuis qu'il est là, dites-moi quelle est l'initiative qu'il a prise en matière de développement économique, création d'emplois. Ou alors, si vous m'en trouvez une, je pourrais vous dire, elle n'a pas été efficiente, puisque de toute façon, le chômage continue et à un rythme élevé. Monsieur Rebsamen, j'avais une bonne estime avant qu'il soit au gouvernement. Quand je l'ai vu au gouvernement, il m'a paru vraiment en dessous de ce que je pensais. Là, je me suis fait un peu avoir. Mais tout compte fait, quand je le vois repartir pour être maire de Dijon, président de son agglomération, je dis, je trouve qu'il a du bon sens. Je le comprends mieux. Et parce qu'il voit bien que tout ça s'est sclérosé, on est dans un système complètement fermé, et ça devient, on rentre dans la zone dangereuse.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous dites aussi, je lis vos newsletters, que les gouvernements précédents, y compris des gouvernements de droite, n'ont pas fait non plus ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous?
Alors moi, je finis par être très critique, bien sûr contre la gauche, parce que ceux qui sont aux commandes, mais aussi contre la droite. Entre 2007 et 2012, il y a plein de choses qu'on aurait dû faire qui n'ont pas été faites. Donc, sur les 35 heures, il fallait revenir sur les 35 heures. Vous vous rendez compte qu'en 2018, ça fera 20 ans que les 35 heures sont installées en France. Et fini, maintenant, c'est devenu un mode de vie. Donc, il faut trouver des idées différentes. Mais il n'y a rien eu de fait pour l'assouplissement du code du travail. Il y a plein de choses à faire pour donner de la liberté aux entreprises. Ça n'a pas été fait. Donc les mêmes veulent revenir en expliquant on va le faire cette fois-ci. J'ai du mal à y croire. Hein. Et je peux vous garantir que moi, je faisais partie des réformateurs. Dans la propre majorité, je disais il faut faire ça. Combien de fois on m'envoyait promener en disant que ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, maintenant, c'est dans leur programme. François Fillon veut remettre en cause les 35 heures. Il a été 5 ans Premier ministre. Mais donnez-moi les clés 5 ans, vous allez voir le changement. Donc, j'ai du mal à croire en tous ces gens. Et je pense qu'aujourd'hui, le dernier rempart, c'est la société civile. Il faut que les citoyens prennent leurs affaires en main, que les citoyens voient que, depuis 40 ans, cette politique, cette forme de politique a échoué. La France est entre les mains des énarques. Et ça me fait peur. Donc, moi, je suis très critique là-dessus, mais je suis critique, je ne suis pas critique en arrivant. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent à l'Assemblée nationale, au bout de 3 mois, ils veulent tout changer, tout casser. Moi, j'y suis depuis 2002. C'est quand même 13 ans, donc j'ai quand même avoir une certaine observation. Je suis maire depuis 14 ans, donc j'ai un certain recul, et j'ai passé surtout 25 ans dans la société civile. Vous voyez, je sais comment fonctionne le monde de l'entreprise, qu'elle attend l'entreprise pour pouvoir fonctionner correctement, créer des emplois, créer des richesses, pour les partager après. Et là, je vous dis personnellement, j'ai plus confiance dans cette forme de politique. Voilà.
Dites-moi, libérez-moi d'un doute, vous allez voter aux prochaines élections présidentielles ?
Je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que voter.
Ah, vous en avez trop dit ou pas assez?
Moi, ce que je voudrais, c'est. Je cherche une formule pour pousser un peu plus les idées. Vous voyez, moi, je suis plutôt un homme de projet, d'idées. C'est ma façon d'être, de vivre. Et je veux mettre dans l'embarras tous ceux qui racontent des sornettes, tous ceux qui disent qu'ils vont faire un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas fait. Donc, je pense que je vais être un gêneur. Voilà.
De quelle manière vous avez déjà une...
Ça, vous savez, vous avez remarqué qu'en général, je suis très créatif sur ce type de sujet. Mais ce qui m'ennuierait, moi, personnellement, c'est de, vous savez, un jour sortir de la politique sans avoir été jusqu'au bout des choses. Donc, vous voyez, j'ai un côté un petit peu excessif. Moi, je le reconnais. Quand j'ai un projet, je le mène jusqu'au bout. Et là, je suis frustré. En fait, je suis un peu schizophrène. Je m'aperçois que sur Chartres, sur cette agglomération, avec toute l'équipe d'élus qu'on ait là, mais majorité, opposition, on travaille bien ensemble tous. Vous avez vu qu'on arrive à transformer les choses. On a une croissance sur notre agglomération. On crée des emplois. J'étais hier en réunion avec une personne de Pôle emploi qui me disait que sur le département, il y avait un recul de 9% sur l'emploi, sauf sur Chartres, plus 0,9. Vous voyez bien qu'il y a des recettes qui marchent. Alors, je n'arrive pas à comprendre que localement, on arrive à faire un certain nombre de choses et qu'au niveau national, on soit paralysé, bloqué. Donc, moi, c'est ma schizophrénie. Donc, je cherche à comprendre et je vais essayer de faire un certain nombre de propositions. Alors, je regarde avec les Républicains. C'est de plus en plus dur à s'exprimer chez les Républicains. Je pense que la nouvelle présidence verrouille bien les choses. Hein, donc, mais ça, c'est toute la problématique de la primaire. Une primaire conduit à une ambiance assez exécrable. Vous voyez, tous ceux qui sont dans les starting blocks, comment ils s'envoient des mots gentils, hein, en préparant cette compétition. Et j'ai peur qu'en sortie de cette primaire, il y ait tellement... Vous savez, dans une bagarre, si des gens se battent pendant 6 mois, il y a des blessures partout. Est-ce que derrière, ça reconstitue une équipe avec un projet viable qui permettra aux Français de s'y retrouver? J'ai de plus en plus de doutes, quoi.
Donc peut-être créer un mouvement politique ou un
mouvement d'idées?
Oh non, moi je suis plutôt sur les idées. Maintenant, voilà, moi en fait, depuis des années, je cherche comment m'exprimer et je m'aperçois que c'est très difficile d'être audible au niveau national. La presse joue un jeu particulier. La presse veut voir des gens qui se braquent contre le parti, celui qui va sortir une insulte, le mot particulier. La presse a besoin de vendre et elle est très attachée à des choses qui sont plutôt de la forme plutôt que du fond. Mais vous voyez, quand il y a une commission d'enquête comme ça sur les 35 heures où le rapporteur, qui est une fille gentille, conclut qu'il faut passer 32 heures, j'ai rien vu dans la presse, moi. Hein? Donc moi j'ai écrit autre chose, j'ai proposé autre chose, ça c'est pas audible, donc je me demande pourquoi. Donc je trouve que les médias ne font pas ce travail de fond qui est nécessaire dans une période très très compliquée. Hein.
Les médias veulent leur match, Sarko-Hollande, la revanche?
Oui, ça fait vendre. Imaginez qu'en 2017, vous ayez Sarkozy, Hollande, Marine Le Pen. Bon, il faudrait accepter Mélenchon quand même, peut-être un petit peu de Bérou, j'en sais rien. Mais c'est le même match. On va le servir combien de temps, ce match? Alors, PSG-Marseille, c'est vrai, ça fait vendre. Mais là, il s'agit de la France. Hein, parce que match de foot, bon, 3-0, le match suivant, l'autre gagne. Il s'agit de la France. Et quand on est engagé pour 5 ans. Et voyez les conséquences. Regardez Hollande. Tout le monde avait des doutes sur Hollande. Les doutes sont plus que vérifiés. Ils sont plus que vérifiés dans leur camp. Même Madame Royal avait des doutes, son ancien compagnon. Vous voyez? Moi, quand je vois Hollande dans cette conférence de presse, je me dis, il est gentil, mais j'ai peur. J'ai peur, vous voyez ?
Pour clore le chapitre politique de cette interview, on va évoquer peut-être les élections régionales de décembre. Les instances nationales des Républicains ont choisi Philippe Vigier comme tête de liste pour la région Centre-Val de Loire. Ce choix n'était pas le vôtre. Vous auriez préféré Guillaume Pelletier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
C'est pas tant Vigier-Pelletier, hein. C'est pas bagarre de... Oui, non, mais peu importe, c'est pas l'histoire des hommes. Philippe Vigier, il a des qualités, c'est un garçon qui est assez sympathique, donc moi je suis pas tout à fait d'accord de façon qu'il conduit certaines choses, mais ça c'est pas grave. Ça, c'est Pelletier, je le connais moins que Philippe Vigier, hein, donc non, je ne comprends pas, enfin je comprends aussi, je comprends très bien, puisque je lui ai dit, pourquoi dans cette région centre, où quand on regarde les derniers résultats des élections, 80% des voix, c'est 79% des voix de droite, sont des voix UMP ou les Républicains, pourquoi on donne cette région à l'UDI qui ne représente pas grand-chose? Donc, vous savez, un parti politique, c'est des militants qui se battent pendant des années, et au moment où ils ont une opportunité pour pouvoir se présenter à une élection, on leur dit, ben non, le chef de file, ça va être quelqu'un d'autre. avec des explications vaseuses. Et en fait, l'arrière-pensée, elle est politique, politicienne, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy souhaite que l'UDI participe à la primaire et ne mette pas un candidat à l'élection présidentielle. Et voilà le deal qui a été fait. Et en échange, on donne 3 régions. Alors nous, on est une variable d'ajustement. Alors, vous voyez, on vient de gagner les élections départementales. Vous avez vu qu'on a fait le plein, quand même. Et c'est quand même pas l'UDI qui a été faire le plein au niveau des élections départementales. Et voilà, on nous impose ça. Personne n'était d'accord là-dessus. Tout le monde l'a dit, sauf à Sarkozy. Ils ont eu peur. On a fait une réunion. On était 22 parlementaires avec Nicolas Sarkozy. Le seul à s'être opposé, c'est moi. Je dis que c'est une erreur. C'est une bêtise vis-à-vis du parti. Et que ça lui coûtera après, pendant la primaire, parce que il braque des gens, les gens ne comprennent pas, on comprend pas, vous militez pour un parti des idées, et au dernier moment, on donne la place à un autre. Ça, c'est le premier point. Puis deuxièmement, politiquement, je pense que c'était une vraie erreur, parce que de dire à l'UDI, vous n'existez plus à partir des régionales, c'est-à-dire vous ne faites plus partie de la compétition seule pour la présidentielle, eh bien ça va donner des idées, ça va donner une place, ça va libérer une place, en fait. Et ça, pour les Républicains, ça sera peut-être plus compliqué au moment de la présidentielle. Parce que de penser que si l'UDI participe à la primaire et n'a pas de candidat à la présidentielle, eh bien, ça va laisser des places plus fortes pour Bayrou ou d'autres. Il y en a déjà qui se positionnent. Donc, je pense que c'est une double faute, politiquement. Mais c'est mon avis, d'accord ? Mais quand je dis ça, je le dis calmement à Nicolas Sarkozy, qui n'est pas forcément d'accord avec moi, mais j'insiste. Et on fera les comptes. Et sur ce type de sujet, en général, je ne me trompe pas beaucoup.
Il nous reste 8 minutes. Vous voudrez quand même qu'on parle des dossiers locaux. Les travaux du futur pôle administratif ont commencé. Ceux du pôle gare se poursuivent. Le réaménagement de la rue de la Pille a pris fin cet été depuis 2001. Vous n'êtes pas chômé. Et ça ne sera toujours pas le cas l'année à venir, évidemment.
Mais non, on n'arrête pas. Vous voyez, même pendant les vacances, vous voyez, on fait des choses. Regardez, vous entendez le bruit des machines. Moi, j'ai souhaité rester dans mon bureau, là, au milieu du chantier. Je pense que la ville a besoin de tous ces équipements. La ville, l'agglomération, parce que vous avez vu que les projets, la majorité des projets sont maintenant communautaires. Tout ce qu'on construit quand on fait une cité administrative, c'est pour toute l'agglo, c'est pour ces 47 communes. Mais quand on refait la gare, c'est pour le département. Quand on refait le plateau nord-est, c'est aussi pour une bonne partie du département. Donc tout ça, ça a du sens. Ça soutient la croissance au niveau local. La ville se développe et les choses se passent bien. Je vois que les habitants apprécient. Alors de temps en temps, on peut ne pas être d'accord pour un projet ou un autre. Mais moi, je comprends ça parfaitement. Il y a des choses même que, bon, moi, j'aurais peut-être fait différemment, peu importe, mais il faut être en mouvement parce que c'est comme le vélo, vous savez, vous tenez parce que vous pédalez, celui qui arrête de pédaler, il tombe.
La polémique du mois, c'est le réaménagement de la place du Cygne, un projet qui va commencer en octobre et qui prévoit l'abattage des 16 tilleuls de la place. Une pétition lancée par l'opposition a recueilli plus de 2600 signatures à ce jour. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de cet abattage et puis dessiner pour nos auditeurs les contours du futur paysage de la place des Cygnes ?
Oui, alors moi, couper un arbre, ça ne me fait jamais plaisir, surtout un tilleul. Le tilleul, vous savez, c'est ma cour de récréation. Je vous disais tout à l'heure, j'ai une petite maison en Ardèche où au fond du jardin, il y a un tilleul avec une petite table où je bois des petits coups le soir avec mon voisin. Le tilleul, c'est un arbre assez symbolique. Là, la problématique est autre, c'est que la place est foutue. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont tombés sur cette place. Vous avez vu que tout remonte, toutes les plaques sont cassées. D'ailleurs, maintenant, on met du bitume parce qu'on ne met plus les plaques, parce que ce n'est pas possible. Donc, il faut refaire la place. Et là, mon opposition, ils sont convaincus qu'il faut refaire la place. Comment voulez-vous qu'on refasse cette place sans toucher les arbres ? Les arbres, les racines sont parties partout. Il y a des caves en dessous. C'est devenu très, très compliqué. Donc, et je pense que quand on refait ce type de place, il faut synchroniser, de refaire une place et d'avoir le début de vie des arbres. Donc, alors, si les arbres tiennent 50 ans, 60 ans, la place tient 50 ans, 60 ans, c'est un investissement sérieux parce que bon, si vous changez les choses au bout de 50 ans, 60 ans, cette place, elle est toute récente. Il n'y a pas longtemps que ça a été fait. C'est là, mais ceux qui étaient aux commandes avant 2001, qui ont fait cette place, et elle est déjà foutue. Hein, et donc voilà, et quand vous regardez les photos, d'ailleurs, on voit dans les années 50, il n'y avait pas d'arbres. Donc, bon, ces arbres, ils ont peut-être 50 ans. Et aujourd'hui, si vous refaites la place et ces arbres, vous les changez dans 10 ans, comment vous allez faire? Donc ça ne tient pas la route. Donc je suis surpris que des gens qui sont d'accord pour refaire la place ne comprennent pas qu'en même temps, il faut redémarrer avec des essences nouvelles. D'autant qu'à une époque, on plantait des platanes ou des tilleuls. Hein. Aujourd'hui, il existe des essences très intéressantes pour les villes. Des essences qu'il faut mettre dans des bacs, et c'est ce qu'on a fait sur le boulevard Challes. Il faut éviter que les racines partent partout. Et voilà ce qu'on va faire. Et on va prendre des arbres qui sont déjà de grande taille, pour qu'on ait déjà de l'ombrage. Et c'est ce qu'on a fait sur Charles Brune. Vous avez vu, on a mis des arbres, ça a coûté très cher. Et tout le monde était un peu affolé parce qu'on coupait ces gros arbres qui étaient plus gros que ceux de la place du Cygne. On les a coupés, on a remis des essences nouvelles, déjà d'un certain âge, et ça se passera très très bien. Donc il va se passer la même chose. Non, moi je crois simplement que nos opposants n'ont plus de sujet. D'ailleurs, on les voit très peu. Je ne pense pas que tout le monde habite ici. Madame Monory qui signe ses papiers, moi je l'ai vue deux fois au conseil municipal. Elle n'a même pas été jusqu'au bout des conseils municipaux. Monsieur Lebon, il doit habiter de temps en temps à Chartres. Monsieur Chevet, on le voit très peu. Madame Rondal, elle a l'air d'être assez active. Bon, moi, ça va peut-être bien avec la philosophie des Verts, mais ça n'a pas de sens. Et voyez, un arbre, il y a le dessus et le dessous. Hein. Alors, tout le monde veut un bel arbre dans son jardin, mais si les racines commencent à attaquer votre maison, rapidement, vous allez vous en occuper de votre arbre. Alors, il y a une forme d'égoïsme aussi, parce qu'ils apprécient d'aller sur ces terrasses, mais s'ils savaient que ça détruit une partie de la ville, eh bien, ils le savent d'ailleurs, eh bien, ils auraient une attitude différente. Alors maintenant, faire signer une pétition comme ça à des gens qui passent, ça, je l'ai vu plusieurs fois, hein, sur plein de sujets. Hein,
donc. Vous êtes concerté avec les commerçants, les riverains de la place, qui sont plutôt d'accord avec votre...
Mais si vous voulez, à un moment donné, vous savez, il y a les habitants, c'est compliqué, parce que les habitants, il y a certains qui voient bien que c'est destructeur, il y en a qui me disent ils sont dans l'ombre toute la journée, et puis il y a les commerçants aussi, c'est intéressant, mais eux, là, ils viennent juste faire leur commerce, et en dessous les arbres, ils mettent leur terrasse, ils font du business, mais après, hop, ils retournent chez eux. Donc c'est compliqué la ville, mais l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Moi, j'ai obligation de faire que cette ville soit tenue correctement. Donc j'ai une place qui est détruite, il faut la refaire, et on ne peut pas refaire cette place si on ne touche pas aux arbres. Donc voilà, donc j'ai choisi, je dois refaire la place. Alors, il va y avoir quelque chose d'assez sympathique. Sur la place du Cygne, des nouvelles essences, bien disposées.
Très colorées. Hein.
Oui, oui, là aussi, ça sera intéressant. Et puis, la place Marceau, elle sera plus dégagée, là, pour laisser place à toutes ces terrasses. On va aussi réorganiser un peu autour du monument. Donc voilà, tout ça, vous verrez après. Vous savez, sur tous les projets à Chartres, on a eu des procès aussi, souvent des procès d'intention sur tout ce qu'on a fait. Rappelez-vous, tous les projets y sont passés. Regardez le boulevard Challes, il est vert. Regardez l'avenue Maurice Jolette, c'est dans un espace de verdure. L'esplanade de la Résistance, c'est de la verdure. Et voilà, donc les choses sont faites correctement. Et sur Chartres, on plante beaucoup plus d'arbres qu'on en coupe.
Monsieur le maire, merci beaucoup. J'avais une dernière question qui était toujours pas d'ambition nationale, mais je crois que vous avez un peu répondu tout à l'heure.
Non, moi ce que je voudrais, c'est qu'enfin on fasse des choses. Je voudrais qu'il y ait une vision pour ce pays, et je trouve que tous ceux qui sont passés dernièrement et tous ceux qui prétendent aujourd'hui, je ne la vois pas leur vision. Et moi ce que je dis simplement, c'est ce que j'avais fait à Chartres en 2001, je donne un signal, je dis à la société civile, soyez attentifs, reprenez vos affaires en main, parce que là, depuis 40 ans, la situation... Écoutez, on a 90 milliards de déficit structurel par an, 90 milliards d'euros. D'accord ? Pour ceux qui ont du mal un peu à suivre, c'est plus de 500 milliards de francs. Et on a une dette qui avoisine les 2100 milliards. Ça commence à être grave. Bon, au niveau des chômeurs, il y a ceux qui sont référencés, ceux qui ne le sont pas. On doit être à 5 millions. Vous ne pensez pas que ça devient préoccupant ? On donne des leçons à la Grèce, Mais en fait, on est dans une situation qui va basculer, à mon avis, si on ne fait pas attention. Donc voilà ce que je dis maintenant. Dans ce cadre-là, j'essaye de faire des propositions.
Merci beaucoup. On va suivre attentivement vos propositions et votre actualité. Merci.